que puis-je dire ce matin? Parce que. Hein? Je dirais à tout à l'heure, je dis que puis-je dire ce matin parmi vous? Parce qu'avec vous, je découvre beaucoup de choses. C'est. Bon, pour moi aujourd'hui, c'est comme si. On était déjà au paradis, quoi. Ah oui, tous les louanges, les chants, tout ce que j'ai entendu, et puis quand la sœur a passé tout à l'heure, ça m'a beaucoup. Voilà, là, ça m'a mené un peu loin. Franchement, je suis très, très, très content d'avoir découvert cette manière de louer, de chanter, d'adorer notre Père Céleste, notre Dieu. Je suis très, très, très content de découvrir ce lieu. Franchement, ça me va droit au cœur et que Dieu vous bénisse.
Merci.
Eh bien, ce que je voudrais en plus donner, c'est toujours encore de ce que vous faites grâce à vos prières, ce que nous voyons en Afrique, ce qui ressort grâce à vos prières. Quand encore le frère Michel est venu, il était logé dans une maison de mon frère qui s'appelait Kwadima Jacques, Kwadima, du moins Adjouma, c'est un libreur. Nous dirons que chez nous, à Fada, il est compté parmi les Richards, hein, ce monsieur. Mais il souffrait d'une maladie énorme durant toutes ces années passées. Et on a cru que ça allait l'emporter. Ah oui. Et lui-même, il n'espérait plus. Et il en avait marre de la vie. Et quand Michel est venu, voilà, Dieu vraiment, il fait tout dans son plan. Et voilà, c'est là où Michel devrait dormir. Vous voyez, il n'était pas au courant de la venue de Michel. Et moi non plus, je ne savais pas que j'allais héberger Michel dans cette maison. Mais voilà, d'un coup c'est venu, j'ai dit d'accord, venez visiter, si ça vous convient, vous pourrez rester là. Eh bien, il a dit oui, c'est bon. Et voilà, il logeait là-bas. Et c'était vraiment un moyen de pouvoir sauver ce frère. Gloire à Dieu. Si je parle cela, ça me touche beaucoup. Il est sauvé, je vous dis. Hein. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il passait tout son temps. Il était au lit, couché, au canapé. Il était. Et alors, c'est là que je lui ai dit, non, mais prends tout ce temps et explique ce monsieur. Parce que je sais ce qui est en lui. Il ne faut pas hésiter. Et c'est là que le frère s'est mis à l'expliquer très bien sa maladie et tout. Il ne pouvait pas s'asseoir, je vous dis, c'était oh là là. Et il avait maintenant reçu un docteur qui disait, d'accord, il faut venir à Ouaga pour qu'on opère. Voilà, il avait aussi, à la longue, il a pris un rendez-vous déjà pour cela. Mais quand Michel a prié pour lui, il lui a dit, non, l'esprit de la maladie peut sortir. Il faut que toi, tu continues maintenant à croire. Ok? Et tu seras sauvé. Et quand il lui a dit tout, j'étais pas là quand il lui disait. Mais c'est quand je venais maintenant, ce frère m'a dit tout ce que Michel lui a dit. Et aujourd'hui, il était à Ouaga quand je venais. Le docteur lui a dit, tiens bien, on revoit plus la maladie, on te perd pas, on sait pas comment.
Voilà.
Ah oui. Vraiment. Et il m'a dit, si jamais tu oublies de donner ce témoignage au frère Michel, ah, tu auras chaud. Ah oui, ça, il me l'a dit. Et je ne sais pas pourquoi mon portable ne marche pas, et parce que je disais que moi, j'allais lui contacter pour qu'il l'appelle. Et que vous entendez sa voix, ah, il allait beaucoup crier plus que moi. Il allait mourir, je vous dis, il allait mourir. Ah oui, ça faisait pitié, hein. On ne voulait pas qu'il parte parce que pour nous, c'est quelqu'un qui est très important dans la famille, c'est un plié. Mais si lui, il partait sur la misère, ah, gloire à Dieu. Aujourd'hui, grâce à vos prières, il est sauvé. Il est sauvé. Franchement, je vous le témoigne, on est très, très, très heureux. Oh, mais si vraiment cette personne, vous pourrez nous le donner à Fada en Afrique, on va le garder. Ah oui, ah oui, ah oui, parce que tout ce que je vois en lui, franchement, c'est pas... Permettez-le de venir à tout temps chez nous. Oui, nous serons très heureux. Voilà, je ne serai pas long parce que c'est pas quel est votre temps de la réunion et tout. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous voir tous. Ah oui, j'ai la chair du poule, moi. Soyez bénis et priez beaucoup pour nous qu'un jour, en fait, que je puisse aussi diriger aussi comme ça, ça parce que c'est l'un de mes objectifs aussi, et même au centre, parce que j'encadre près de beaucoup de païens qui ne connaissent pas Christ par ma manière, l'attitude, le comportement. Il y a certains qui viennent au Seigneur. Alors, je voudrais que vous continuez à prier aussi pour moi, afin que la bénédiction de l'Éternel Tout-Puissant, le bon Créateur, soit avec moi, la sagesse, l'intelligence et tout, afin que je puisse aussi un jour diriger beaucoup comme ça. Ça ne serait pas limité seulement à la formation professionnelle, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas prendre son exemple. Je sais pas, j'ai toujours dit qu'il y a un secret, il faut qu'il me donne. Ah oui, j'ai toujours dit ça, il y a un secret quand même à quelque part. Et moi, je ne partirai pas sans prendre ce secret-là. Parce qu'il faut que je partage. Il faut que je sois la lumière et le sel pour que ces gens-là aussi puissent goûter. Ah oui, que je puisse les éclairer comme aujourd'hui je vous vois ici. Vous m'éclairez beaucoup. De grâce, donnez-moi ce secret. Que Dieu vous bénisse.
Merci.
C'est vrai qu'il fait chaud ce matin. Ouh là là! Qui c'est qui a fait le feu? C'est Philippe. Il a dit, il y a un Africain parmi nous, on ne va quand même pas le laisser mourir de froid. Alors il a forcé sur le chauffage. Ouh là là! C'est gentil, merci Philippe, Dieu te bénisse. Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 9 ce matin. Je vous demanderai d'être attentif à ce qui va être dit ce matin, parce que je ne voudrais pas que vous compreniez mal ce que je vais dire. On peut toujours mal comprendre, mal interpréter. Alors faites très attention, n'allez pas dire Michel a dit ceci, Michel a dit cela. Faites attention. La parole de Dieu, c'est très important. Jean 9, 31-32. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Amen. C'était les gens qui parlaient comme ça au sujet de Jésus. Depuis quelque temps, quelques personnes me posent des questions au sujet de notre volonté est la volonté de Dieu. La Bible affirme que seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés. Ce n'est pas ceux qui disent Amen, Alléluia, qui braillent, qui se roulent par terre, forcément qui rentreront dans le royaume de Dieu. Hein. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alors c'est un vaste sujet parce que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, dans sa première lettre, au verset 6, il dit « Il nous est dit qu'en vérité, c'est Dieu qui fait toutes choses en tous. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas se laisser troubler. Il faut que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Maintenant, ce n'est pas pour les bébés pentecôtistes qui sont encore au lait, qui tombent sur leur derrière et qui pensent qu'ils ont fait quelque chose de grand et d'important. Il faut que vous soyez des adultes spirituels. Je m'adresse à des adultes spirituels. Si vous êtes encore un bébé, vous allez comprendre ce dont vous aurez besoin, mais je vous en supplie, soyez attentifs et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Dieu a tout révélé dans la Bible, mais ce qu'il dit se trouve suffisamment caché pour que ceux qui ne doivent pas savoir ne sachent pas. Il n'y a que ceux qui ont des oreilles pour entendre qui peuvent entendre. Il n'y a que ceux qui ont des yeux pour voir qui peuvent voir. À notre conversion, notre propre volonté est abolie. Et tout ce qui succède, ça vient de Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Notre première nature, en fait, elle demeure. Moi, je suis toujours Michel Janton. Ma mère n'a pas dit, tiens, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes quand je suis rentré de la Réunion. Mais cette nouvelle, cette nature, ma nature, la personne que je suis, a été créée nouvelle. Elle est convertie de mauvaise en bonne. Et ça, ça vient de Dieu. C'est ce que Paul écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 4. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Capacité de faire quoi? Toute chose, puisque toute chose vient de Dieu en tous. Il ne s'agit pas seulement dans ce texte des 9 dons spirituels ou surnaturels, parce qu'on pourrait dire, voilà, Michel, tu sors le texte du contexte, voilà, ça n'a rien à voir, Paul est en train de parler au sujet des 9 dons spirituels. Il s'agit de toute chose, il dit bien toute chose. Et quand il est écrit toute chose, c'est toute chose. La Bible dit que Dieu est l'auteur de la vie elle est spirituelle. Depuis le début jusqu'à l'autre bout, c'est toujours Dieu. Paul écrit aussi dans 1 Corinthiens 8, 6, « Pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes amoureux de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Et puis Paul ajoute ensuite, juste à la fin, juste après ça, il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Ils le lisent, mais ne comprennent pas. Ou alors, ils ne rencontrent pas le frère Philippe qui leur explique, comme Philippe a expliqué à l'eunuque les choses. Ils ne rencontrent pas l'homme de Dieu qui sait et qui explique. Ils rencontrent des bricoleurs qui parlent toujours de Zachée. Toutes choses viennent de Dieu et en nous, Dieu corrige notre volonté débile en créant en nous le vouloir. Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui fait ça. Il crée ce vouloir en nous, la Bible dit même, selon son bon plaisir. Il est maître. On n'a pas à chipoter là-dessus. Et nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons faire le bien. Qui ici se lève le matin en disant « qu'est-ce que je pourrais faire de mal ?» Personne. Nous avons tous une bonne volonté parce qu'elle a été renouvelée par Dieu. Elle a été changée, elle a été créée de mauvaise qu'elle était en bonne. En nous faisant naître de nouveau, il a changé notre volonté mauvaise en volonté bonne. Il nous a créés, nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Ce que vous faites a été préparé d'avance pour que vous le fassiez. Mes frères et sœurs, si nous avions la possibilité, je veux dire un mot énorme, un gros mot, un juron, si nous avions le libre arbitre, nous serions en position de mérite quand nous faisons le bien. Et mes frères et sœurs, nous ne méritons rien parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu dans le but de faire les choses qu'il a préparées à l'avance pour que nous les fassions. Non, mais comment on ne peut pas comprendre ça? Comment on va encore chipoter en disant « non, 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 c'est la parole de Dieu, vous ne la voulez pas ?» Écoutez, vous êtes libre, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, si vous avez été baptisé correctement, vous serez sauvé, ça c'est bien, mais vous passez à côté de grandes choses dans votre vie pratique de tous les jours parce qu'il vous manque une assurance. Alors un peu d'humilité, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Mes frères et sœurs, du premier mouvement jusqu'à la dernière persévérance, le bien que nous faisons est de Dieu dans toutes ses parties. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous glorifier d'être du troupeau de Dieu. Ça vient de Dieu. Il nous a choisis librement. Et nous ne pouvons pas nous glorifier de nos actes, puisque tout vient de lui. Notre volonté est devenue bonne par la volonté de Dieu. Est-ce que ça signifie que nous ne faisons que de bonnes choses? Aux yeux de Dieu, oui. Aux yeux de la conscience humaine, non. Je m'en fous de la conscience humaine. Pourquoi les enfants de Dieu, par exemple, craignent-ils Dieu? Pourquoi les enfants de Dieu cherchent toujours à ne pas déplaire à Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous un cœur et une voix nouvelle. Jérémie 32, 39. Est-ce que c'est par nos propres... Non, c'est Dieu qui l'a fait. En cela, nous sommes de nouvelles créatures. Le cœur qu'il a mis en moi, mes frères et sœurs, écoutez bien, c'est le même qu'il a mis en chacun de mes frères et sœurs. En vous, dans les pentecôtistes, dans les baptistes, dans les protestants, dans les pentecôtistes, dans les catholiques. J'étais l'autre jour, alors que nous étions... tellement embêté par les hommes de la douane, là-bas pour notre frère Boukhari, et j'attendais, à un moment donné, j'ai vu une église catholique, je suis entré pour prier, et il y avait une réunion de prière qui était là. Ils priaient Jésus-Christ, le Fils de Dieu, exactement comme nous. Ils aimaient le même Jésus que moi. Et j'ai pu me joindre à cette réunion de prière magnifique. Il y a des enfants de Dieu partout. Ceux qui ont reçu le cœur de Jésus-Christ, leur nouveau cœur, c'est le même que vous avez reçu. Nous avons le même cœur. Ça, c'était prophétisé par Jérémie des centaines d'années avant la création de l'Église. Et l'accomplissement de cette prophétie de Jérémie 32, d'Ézéchiel 11, 19, excusez-moi, elle a eu son accomplissement à Jérusalem quand il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Une seule âme. Nous avons le même cœur. Un cœur qui a reçu de Dieu le pouvoir de faire le bien et d'avoir la même volonté que lui. Le cœur qu'il a mis en moi, c'est le même qu'il a mis en chacun de vous. Comment Dieu appelle-t-il notre conversion? Il l'appelle une création de cœur nouveau. D'un cœur nouveau. Frères et sœurs, il ne peut rien sortir de bon de notre volonté avant qu'elle ne soit transformée par Dieu. Alors, qu'en est-il de nos actes et de nos paroles mauvaises? Parce qu'il faut quand même reconnaître la chose. De temps en temps, il y a des choses qui sortent, qui ne sont pas... Eh bien, elles sont nos faiblesses. Pas la faiblesse de Dieu, nos faiblesses. Son œuvre à lui, elle est parfaite et nous sommes son ouvrage parfait. Et ce que nous appelons nos faiblesses, ou faiblesses de nos frères et sœurs qui des fois nous cassent les pieds, elles sont ces faiblesses en réalité que de bonnes choses qui indiquent à notre conscience le chemin que nous avons encore à parcourir pour parvenir à ce salut dont nous goûtons aujourd'hui seulement les prémices. Nous avons besoin de ces faiblesses, elles sont bonnes. Sinon, nous ne chercherions pas à nous parfaire et nous ne travaillerions pas à notre salut avec crainte et tremblement. Mais c'est encore là, Dieu nous donne le vouloir et le faire dans cette crainte et dans ce tremblement. Là encore, alors que nous souffrons de nos faiblesses, Dieu dit « Ma grâce te suffit ». Quelle est cette grâce? Est-ce que... Il faut que nous comprenions. Oh, c'est tellement beau. La grâce, c'est que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes le cep. Vous savez ce que c'est, le cep? Et lui, Jésus, il est la vigne. Et que sans lui, eh bien, nous ne pourrions porter aucun fruit. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Oui, Jésus dit, vous êtes le cep, je suis la vigne. Et sans moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Vous avez vu, hein, quand on est allé en Suisse tous ensemble, là, vous avez vu la vigne, vous avez vu le cep. Ben, le cep, c'est un morceau de bois qui, s'il n'est pas dans la vigne, sur la vigne, eh bien, il ne porte aucun fruit. Mais quelle sorte de fruit? vous ne pouvez porter aucun fruit. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, ça va vous choquer, vous ne pouvez porter ni un fruit bon, ni un fruit mauvais. Rien. Néant, zéro, que dalle. Et puisque nous sommes en lui, nous ne pouvons porter que de bons fruits. Jésus continue en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4, 5. Lisez ça, méditez ça. Rien, ça signifie, vous ne pouvez rien faire, ça signifie, vous ne pouvez rien faire de bien, mais vous ne pouvez rien faire de mal non plus. Par contre, si nous sommes en lui, nous portons de bons fruits. Car nous ne pouvons rien produire sinon ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qu'il a préparé d'avance. Et si ce n'est pas Dieu qui nous a plantés, alors il nous arrachera pour nous jeter au feu. Matthieu 15, 13. Donc ça vient de là. Le seul problème, ce n'est pas ce que nous faisons. Le problème, c'est est-ce que Dieu nous a plantés? Un semeur est sorti, il a semé sa semence, une bonne semence. Quelques temps plus tard, les serviteurs ont dit, « Maître, comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie qui pousse? N'as-tu pas semé de la bonne semence ?» Il dit, « Oui, j'ai semé de la bonne semence, mais pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, un ennemi est venu et il a semé une mauvaise semence. Oh, il faut l'enlever !» Non, 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 laissez tout pousser ensemble et à la fin, quand on verra le fruit, qui est mauvais, on arrachera l'ivraie et on la jettera au feu. Pas parce que le fruit est mauvais, mais parce que la nature de ce qui a été semé est mauvaise, parce qu'elle a été semée par le mauvais, elle a été semée par le méchant. Vous voyez la différence? Donc ce ne sont pas ce que nous appelons bien et mal qui décide de notre sort. Ce qui décide de notre sort, c'est avons-nous été hantés, plantés par Dieu? Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous du blé ou sommes-nous délivrés? Si nous sommes du blé, si nous avons été plantés par Dieu, tout ce que nous produisons vient de lui dans un but, tout. En disant que nous sommes des cèpes, Jésus ne dit pas que nous sommes des espèces d'infirmes qui ne pouvons pas suffire à nous-mêmes pour porter de bonnes choses et que nous en portons de mauvaises. Il dit que, en tant que cèpes, nous sommes simplement que du bois stérile, sec, sans valeur à ses yeux, et que nous ne trouverons en nous-mêmes aucune faculté pour faire soit du bien, soit du mal. Rien. Vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes capables que de rien. Nous sommes néant, producteurs de néant. Maintenant, pour revenir à Philippiens 2, 13, je dirais que la première chose que Dieu a fait, c'est de nous donner la volonté, une bonne volonté. Notre volonté nous a été donnée par Dieu, puis il nous donne le faire, c'est ce qui est dit dans Philippiens 2, 13. Il nous donne le faire, c'est-à-dire le don, c'est Dieu qui nous le donne, c'est un don. Il nous donne le pouvoir de manifester, d'exécuter cette volonté qu'il nous a donnée. Où voulez-vous vous glorifier? Où voulez-vous vous glorifier? Où est la place de la petite chose que vous auriez faite sans Dieu pour glorifier le Seigneur? Mais quelle bêtise! Quel orgueil de penser comme ça après tout ce que Paul enseigne. Alors, si tu t'attribues quelque chose au niveau de ta volonté ou de l'exécution de cette volonté, tu voles Dieu. Mais peut-on voler Dieu? Non, tu te trompes toi-même, tu te voles toi-même. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, notre volonté, elle est incitée à aimer le bien, elle est inclinée à désirer le bien, oui ou non, c'est vrai. Alors, voilà ce que Dieu a fait. Il nous a donné le vouloir et le pouvoir de faire ce que nous voulons avec cette nouvelle volonté qu'il nous a donnée. Et tout ça se passe maintenant dans le temps. Et dans le temps, la persévérance à faire le bien nous est aussi donnée par Dieu. Alors nous, quand on est là sur terre, et on voit ce qui se passe, nous avons conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que nous sommes bourrés de faiblesses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On invoque le nom de Jésus sur notre vie. Chaque matin, nous venons devant le trône, invoquant son nom, sa puissance. Nous désirons tellement faire le bien, nous lui demandons son aide. Nous appelons au secours sur ce que nous appelons nos faiblesses, afin que Dieu nous rende forts. Et quand nous faisons cela, nous manifestons une chose qui ne doit pas nous échapper. Nous manifestons non pas la peur de voir la faiblesse qui est la nôtre prendre le dessus. Nous manifestons dans la chair ce que Dieu veut. C'est encore lui qui inspire de telles prières dues à notre conscience de faiblesse. Et pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il veut que ça soit comme ça? Afin que toutes les puissances infernales et dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons conscience, il nous a laissé conscience de notre faiblesse pour qu'on invoque son nom et que nous lui demandions de venir à notre secours pour qu'il soit notre force. Qui Dieu exauce-t-il? Ceux qui font sa volonté. Qui peut faire sa volonté? Ceux qui ont reçu le don de faire la volonté de Dieu. Qui peut faire de telles choses? Ceux qui ont reçu le pouvoir de le faire par les autres. Où est la place à votre libre arbitre? Arrêtez d'être des bébés. N'oubliez pas que la connaissance du bien et du mal, c'est pas un cadeau, hein. C'est ce qui résulte du fait de la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, Jésus a dit, c'est fini ce temps-là. Vous n'êtes plus sous cette malédiction-là. Maintenant, connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, mon Père, c'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas connaître le bien et le mal. Nous avons conscience du bien et du mal. Dieu connaît le bien et le mal, comme nous connaissons le bien et le mal. Mais ce n'est pas cette connaissance qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que nous connaissons le bien, alors on va faire le bien. Nous connaissons le mal, alors nous détournons du mal pour faire le bien. Ce n'est pas ça qui nous conduit à la vie éternelle. Si c'était ça, nous mériterions notre salut. Cette désobéissance d'Adam et Ève, elle était voulue afin que cette connaissance du bien et du mal que Dieu avait avant même notre création puisse disparaître. Comment faire disparaître la connaissance du bien et du mal? En faisant disparaître le mal. Et c'est ce que Dieu veut faire, et il le fait au travers de nous, en luttant contre le diable et tous ses démons, en luttant contre la chair, en luttant contre tout ce qui est imparfait, jusqu'à la destruction totale de ce qui est appelé le mal, dans la fournaise ardente à la fin. Et nous sommes dans cette évolution-là. Ça sert à quelque chose. Donc tout dépend du point de vue que vous avez. De votre point de vue dépend votre bien-être dans votre vie. De votre point de vue, c'est-à-dire de la connaissance que vous avez de Dieu, de la connaissance que vous avez de ses principes, dépend votre bonheur, votre malheur, votre désespérance, votre paix. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez les Chaldéens qui ont tué les bergers de Job? Ces Chaldéens qui, après avoir tué les bergers de Job, ont volé tous les troupeaux qui appartenaient à Job. Vous vous souvenez de ça? D'après le texte du livre de Job, on voit que c'est le diable qui a fait ça. N'est-ce pas? C'est la vérité. Donc, on voit que le diable agit de son côté. Mais Job, il avait un autre point de vue. Il dit à ce sujet, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, comment pouvons-nous dire qu'une même œuvre ait été faite par Dieu, par le diable et par les Chaldéens? La justice de Dieu, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec la nôtre. Ça veut dire que le sens, notre sens de ce qui est juste n'a rien à voir avec le sens de ce qui est juste au regard de Dieu. Maintenant, il est temps d'avoir le regard de Dieu sur les choses. Pour comprendre, il nous faut considérer premièrement la fin et deuxièmement la manière d'opérer. Ce que Dieu voulait, c'était quoi? C'était dans le temps, c'était de fortifier Job et il le fortifiait par l'adversité. Ce que Satan lui voulait, c'était désespérer Job. Et ce que les Chaldéens voulaient, c'est se faire du pognon. Voilà. Dieu abandonne Job à Satan afin que Job soit affligé. Puis il utilise les Chaldéens qui ont un mauvais cœur, qui ne connaissent pas Dieu, pour être ses ministres, les ministres de ce fer, c'est-à-dire de ces crimes et de ce vol. Il en a fait ses ministres dans un but. Et Satan est apparu là-dedans, saisissant, n'est-ce pas, l'occasion pour stimuler les Chaldéens. Ainsi, ces derniers ont encore davantage contaminé leur mauvais cœur par des actions répréhensibles. Ceux qui se purifient encore, que ceux qui se souillent encore. Que voulez-vous dire à ça? Dieu agit en particulier dans toutes les choses de notre vie et il agit dans les actions particulières, utilisant le diable, utilisant les Chaldéens, utilisant les gens, les veaux, les vaches et les cochons, utilisant même parfois des chrétiens. Mais sa justice à lui demeure irrépréhensible à cause de ses intentions. Par contre, le diable et les hommes montrent leur état déplorable et lamentable à cause de leurs intentions. Quelles sont vos intentions? Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu ait de mauvaises intentions. Et Jésus m'encourage à croire ça en disant, arrête de soupçonner le mal. Je t'interdis de soupçonner le mal. Voilà, mes frères et sœurs. Job voyait les choses de la bonne manière. Il n'y a pas que lui, j'ai pris cet exemple. Moi, je vous donne encore un deuxième. Joseph. Joseph aussi voyait les choses qui lui arrivaient de la bonne manière. Haï par ses frères. Vendu par ses frères. Traîné chez Potiphar comme esclave. Jeté en prison, accusé de viol presque. Hein, n'est-ce pas? Jeté en prison. Pauvre Joseph. Le diable l'aimait pas, hein. Oh, le diable l'a attaqué, hein. Ben oui, mais tout dépend de la façon dont tu regardes les événements et les gens. Ton regard, ton œil, la Bible dit, c'est la lampe de ton corps. Lui, il dit pas que c'est le diable. Il dit à ses frères, à la fin de l'histoire, voyez la fin. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 50, 20. Joseph avait un regard juste, spirituel, comme Dieu. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas, il n'y a pas une chose contre Joseph. Il n'a jamais murmuré, il n'a jamais gueulé, il ne s'est jamais plaint. Il n'a même pas prié, Seigneur, enlève cette écharpe de ma chair. Paul, il a prié, enlève cette écharpe. Joseph, même pas. Il a subi toutes ces choses sans râler. Et il est devenu le premier ministre. Ton regard, ton œil est la lampe de ton corps. Si ton corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et puis une petite phrase mystérieuse. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Matthieu 6, 22, 23. Comment la lumière peut-elle être ténèbre en toi? La lumière, c'est Jésus, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, Jésus en toi peut être ténèbre. Ça dépend de ton regard. Tu peux avoir un Jésus religieux. Tu peux avoir un Jésus malhabile. Tu peux avoir un Jésus qui ne sait pas tout. Tu peux avoir un Jésus qui ne tient pas tout sous son contrôle. Tu peux avoir un Jésus qui est soumis à ton libre arbitre. Ça dépend de ton regard, ça dépend de ta compréhension. Ça dépend de ta croyance en lui. Ça dépend de ta façon de penser à son sujet, au sujet de ce qui t'arrive et au sujet des gens. Si ton Jésus, la lumière, est ainsi en toi, alors la lumière qui est en toi est ténèbre. Et oh, combien sont grandes ces ténèbres! Tu dis Amen, Alléluia, Dieu est tout puissant, mais en réalité, tu crois que c'est toi qui fais les choses. Et que... Convertis ton regard. Regarde Jésus, ton Dieu, tel qu'il est et non tel que les bricoleurs religieux le décrivent. Oins tes yeux avec l'eau de la parole, c'est-à-dire avec la Bible, avec l'enseignement de la Bible. Beaucoup se réclament, se disent « Je suis chrétien », ils aiment, ils lisent la Bible, ils ne comprennent rien. Prie que ton intelligence spirituelle soit renouvelée. Tu ne le seras que quand tu commenceras à lire. Combien de chrétiens lisent la Bible? Oh, lire le dernier bouquin du prophète Sherman qui fait tomber les gens par terre. Alors ça, oui, là, on va lire tout ça. Lire le dernier bouquin de la sœur Machin qui a été enlevée en esprit pour aller visiter l'enfer. Alors ça, on va lire. Hein? Lire le dernier bouquin qui explique en 5 points comment avoir l'abondance. Ça, on va lire. Hein? Mais lire la Bible, quel chrétien lit encore la Bible aujourd'hui? Je suis effaré de voir beaucoup des textes, par exemple, que je vous cite ce matin, sont complètement inconnus. Passe complètement par-dessus en disant « Oui, oh, ben, Paul est un peu compliqué, on ne va pas chercher à comprendre, il ne faut surtout pas parce qu'on va intellectualiser la chose. » Oins tes yeux avec l'eau de la parole, avec la Bible, et que ton intelligence soit ainsi renouvelée afin que tu y voies clair et qu'ainsi tu puisses toi aussi devenir ce que Jésus veut, la lumière du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Jésus, merci de ces quelques mots encore que je peux apporter à mes frères et sœurs. Et je te prie mon Dieu que ces choses-là puissent les aider à comprendre que tout ce qui leur arrive n'échappe pas du tout à ton contrôle, mais que toutes ces choses ont été préparées à l'avance afin que nous puissions pratiquer les œuvres que toi tu veux que nous pratiquions. Que ton nom soit béni. Merci pour la tranquillité et la paix que cela donne à mon cœur. Je te prie que cette tranquillité et cette paix puissent venir dans chacun de mes auditeurs ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.